last year Sidney Lumet was here, and he had a very good time. So I said yes this year, and I'm happy to be here.
The only relationship to a Hollywood studio is whether the picture makes money. If it makes money, there's no problem. It could be about the beautiful life of Fidel Castro. They would do it if they thought it would make money.
Au sommaire de ce cinquième épisode du journal du Varaz Film Festival, dans environ 8 minutes, on retrouvera une chronique de Patrick autour de l'avant-première 16 ans de Philippe Lioré. À la fin de ce magazine, un agenda de films à voir avec invité. Mais tout de suite, c'est Jeanne qui nous propose une interview avec le réalisateur de l'avant-première La Montagne.
Rencontre avec Thomas Salvador, réalisateur du film La Montagne. C'est l'histoire de Pierre, un ingénieur parisien qui décide de tout quitter pour s'installer en haut des montagnes. De là où il décide de ne plus redescendre, il rencontre l'amour, mais pas seulement. C'est une fable fantastique, audacieuse et poétique qui nous conduit sur des chemins inattendus. Alors quel est le point de départ, l'inspiration du film La Montagne ?
Ça vient de loin, de mon amour pour la montagne et de ma passion. Quand j'étais adolescent, je voulais être et cinéaste et guide haute montagne. Mais je ne suis pas guide haute montagne. Puis j'ai tourné le dos à la montagne pendant plusieurs décennies et j'ai surtourné pour le film. Mais j'ai toujours su que je ferais un film en montagne avec pour point de départ, c'est, comme ça, cette figure d'un personnage qui est en montagne et qui ne veut pas en redescendre.
Au final, Pierre, donc le personnage principal, est-ce qu'il tombe amoureux de la montagne, de Léa ? Est-ce qu'il est juste un peu trop curieux ?
Moi, je pense qu'on n'est jamais trop curieux, ça c'est sûr. Et ben, c'est un peu des deux. La montagne l'appelle, autant que... Il y a presque quelque chose d'un peu mystique, et en tout cas presque fantastique aussi. Il y a une dimension fantastique dans le film, mais là c'est construit comme s'il était vraiment appelé par la montagne. Et aussi, dans son mouvement comme ça d'éloignement des hommes et de la société, il croise Léa, qui est le dernier point... on va dire d'ancrage, qui est le lien qu'il maintient encore parmi les hommes, quoi. Donc c'est un peu un mélange de beaucoup de choses. Enfin, moi j'aime bien les films dans lesquels on ne peut pas répondre en une phrase.
Est-ce que c'était important du coup que Pierre garde un lien avec l'humain, garde des relations sociales ?
Oui, parce que sans trop dévoiler de choses, le personnage s'éloigne et va très très loin, jusqu'à presque disparaître. Mais pour moi, je voulais faire un film entre guillemets positif. Je voulais qu'en aucun cas dire que pour trouver sa place et son équilibre, il faut disparaître, quoi. Donc il y a ce lien et voilà, le personnage de Léa lui permet de faut pas trop dévoiler, mais de revenir et d'accepter qu'on peut vivre parmi les hommes, que c'est compliqué, mais que... Vu que Pierre change pendant le film et se transforme presque, riche de ce qu'il est devenu, ce qu'il a vu, il peut revenir. Et puis aussi par la force de l'amour, quoi.
Est-ce que je tiens une bonne piste si je dis que le film parle de renaissance et de connexion avec la nature ?
C'est une très bonne piste. Ouais, complètement. Moi, dans mon film précédent, il y avait déjà ce rapport à la nature, à l'animalité, à... En fait, tous les films que je fais, même dans mes courts-métrages, il y a toujours centrale la question de la place que l'on souhaite ou qu'on occupe dans ce monde, en fait. On a toujours dissocié l'homme, la nature, maintenant un peu moins, on se pose des questions sur notre impact. Voilà, et ce film est là-dessus, et effectivement avec un personnage qui va très loin pour renaître, quoi, pour se trouver d'une certaine manière.
Est-ce que c'était important pour vous d'épurer un peu les dialogues pour laisser peut-être plus de place à la montagne ou plus de place aux sentiments qu'on peut ressentir ou aux sensations ?
Ah oui, complètement. C'est pas volontaire, mais c'est naturel dans mon écriture, de manière de penser mes films, de laisser un maximum de place effectivement aux sensations, à la perception du spectateur, et puis surtout laisser au spectateur un espace pour investir les personnages, le récit, se poser des questions, sans pour autant que tout soit possible et que, voilà, de donner suffisamment de clés, d'éléments pour qu'on ne soit pas perdu, mais laisser un maximum d'espace aux spectateurs. Puis je suis ravi de voir toutes les projections que je fais, que des gens disent, on ne sait pas trop pourquoi, mais on a beaucoup aimé. Alors d'autres gens posent des questions plus précises, mais qu'on est bien avec les personnages, malgré le peu d'infos qu'on a sur lui, puis qu'on n'a pas accès à sa voix off, à ce qu'il pense, puis il parle très peu, mais que par l'action et la mise en scène, j'ai l'impression qu'on ressent très fortement de l'empathie pour les personnages, quoi.
Alors côté technique, pour le décor, est-ce que vous avez triché? Est-ce que vous étiez juste au bon moment, au bon endroit? Ou est-ce que c'est une histoire de patience?
Ah non, on n'a rien triché. Tout ce qui est fait, tout ce qu'on voit dans le film, c'est, à part la dimension fantastique, mais c'est fait, c'est vraiment tourné là où ça se passe. Et comme on a eu pas mal de jours de tournage, parce qu'on était très peu nombreux, ça nous a permis d'être vraiment en immersion et d'avoir des moments, je ne sais pas si vous faites allusion à des moments où il y a des nuages ou des choses comme ça. Non, on était... moi j'en rêvais et puis ça s'est produit. Mais parce qu'on était effectivement là au bon moment. Ouais.
C'est un peu de patience aussi d'attendre le bon moment ou de tourner aussi sur des conditions qui ne sont pas toujours évidentes.
Oui, c'était... On a pris des risques. C'était un tournage très, très, un peu fou. Maintenant, je peux le dire rétrospectivement. Après, quand j'étais dedans, j'étais concentré sur ce que je faisais. Mais maintenant, avec du recul, je peux répondre à la question. C'est pas un peu fou. J'ai dit, maintenant, je peux dire oui. Mais ça a permis aussi, voilà, des choses qui sont assez rares, voilà, et qui concourent à cette sensation, peut-être d'évidence, qui fait qu'on est avec le personnage parce qu'on sent qu'il est vraiment dans le froid, dans la montagne, qu'il est seul. Mais c'était un tournage pas facile. Ouais.
C'était Thomas Salvador pour le film La Montagne, à retrouver en salle en février 2023.
On retrouve Patrick pour une chronique d'une autre avant-première.
Le réalisateur Philippe Lioret signe avec 16 ans son 9e long-métrage, projeté en avant-première lors de l'Arras Film Festival. Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de seconde. Leurs regards se croisent et tout est dit. Nora vit dans l'ensemble HLM de la ville, Léo dans le quartier résidentiel. Le frère de Nora, Tarek, travaille comme manutentionnaire à l'hypermarché local. Accusé de vol, il clame son innocence, mais le directeur du magasin ne veut rien entendre et le vire sur le champ. Le directeur, c'est Franck, le père de Léo. Les différences s'exacerbent et le chaos s'installe. Les vies de Nora et Léo vont tourner à la tragédie. Voici l'extrait de la bande annonce.
Tu vas te faire mal aux yeux à regarder les gens comme ça.
Mais c'est pas les gens que je regarde. C'est Nora ton prénom, c'est ça? Léo, moi.
Ce serait pas Bélier par hasard?
Pourquoi?
Parce que tu lâches pas.
Tu sais qui c'est lui? C'est le fils du directeur de l'hyper. Son connard de père, il m'a viré.
Putain, mais t'as fait quoi encore?
Tu traînes plus avec lui, point final.
Pareil, t'as viré un type à l'hyper?
Parce qu'il a piqué une bouteille.
Et on vire quelqu'un pour ça?
C'était qui les autres? Des crétins qui t'ont dit que ça serait une grande idée d'aller tout péter pour te venger, c'est ça?
Je me suis pas vengé, je vous dis.
Léo?
Bon, ok, 100 balles.
Arrête, ça va pas ou quoi?
À ton âge, on fait pas ça. Une fille, ça fait pas ça.
C'est la honte, ça. Jamais je te le pardonnerai, ça.
Mon père sait que je suis allé chez toi, il faut plus qu'on nous voit ensemble, je t'expliquerai.
C'est toi qui la surveille?
Moi, je te dis que tu me pètes les couilles, ça te va comme ça?
On peut pas te faire confiance, tu sors plus. Ce que tu te prends pour une femme, tu vas en mettre une maintenant.
Putain, Léo, si je quitte le lycée, je remettrai plus les pieds.
J'ai rendez-vous au centre d'action sociale jeudi soir. Vous voulez pas venir avec moi? Faut pas l'empêcher d'aller au lycée, monsieur. C'est moi, j'y retournerai plus.
T'as assez fait de mal comme ça.
Lâche-moi! Lâche-moi!
Vous avez pas été amoureux, c'est dans vous.
Au-delà de l'idylle sentimentale bien gentillette entre ces deux jeunes amoureux, le film vaut surtout par une observation très juste de la société actuelle. Il montre, sans caricature, les approches sociales et culturelles d'une famille française bourgeoise et d'une famille modeste d'origine algérienne. Il met en évidence les difficultés des jeunes filles de milieu maghrébin à exister entre l'envie de modernité et les traditions familiales conservatrices. Il évoque les rivalités de territoire dans les quartiers sensibles et la violence au quotidien. Il souligne le racisme à travers la suspicion immédiate qui se porte sur le jeune Algérien lors de la disparition dans un rayon d'une bouteille de vin à 500 euros. Il dénonce encore le système capitaliste lorsque le directeur de l'hypermarché est exclu de son poste par une direction pour laquelle seul compte le chiffre d'affaires. Le film 16 ans est un film attachant, à la fois plein de fraîcheur et de gravité, joué par de jeunes interprètes remarquables. Il réunit la radieuse Sabrina Levoix, dont c'est la première apparition sur le grand écran, et Teilo Azaïs, qui depuis 3 ans déjà incarne Enzo, le fils de Florent et Sabine, dans Un si grand soleil sur France 2. Le film sortira en salle le 4 janvier 2023.
Place maintenant à l'agenda de ce vendredi 11 novembre. Parmi les séances avec invités pour ce vendredi 11 novembre, à 11h15 en salle 2 du Casino d'Arras, le film belge dans la catégorie découvertes européennes, Ailleurs si j'y suis, de François Pirot, qui nous dessine de manière truculente le portrait d'une société qui, à force de se remettre en question, finit par se perdre, et des personnages qui se retrouvent confrontés à eux-mêmes dans la sérénité d'une forêt. Rencontre avec le réalisateur à l'issue de la séance. À 14h en salle 1 du Casino, l'avant-première adaptée d'une bande dessinée, La guerre des Lulus de Yann Samuel, et qui nous plonge en août 1914 où 4 jeunes garçons sont oubliés lors de l'évacuation de leur orphelinat et sont livrés à eux-mêmes. Rencontre avec l'équipe du film après la projection. À 14h également, mais en salle 2 du Casino, une autre avant-première, Le prix du passage de Thierry Binisti, qui nous raconte le quotidien bouleversé d'une jeune serveuse à Calais après sa rencontre avec un jeune migrant qui essaie de rejoindre l'Angleterre. Rencontre avec le réalisateur à l'issue de la séance. Toujours à 14h, mais cette fois en salle 2 du Mégarama, projection du film monténégrin en coproduction avec la Serbie, la Croatie et la France, classé dans la catégorie Vision de l'Est, et qui nous dessine le portrait d'une génération qui n'a pas connu la guerre, mais sur laquelle plane toujours l'ombre du passé. Rencontre avec le réalisateur Ivan Bakrak après la projection. Retour au Casino en salle 1 à 16h30 avec l'avant-première « Cet été-là » de Éric Lartigot, une histoire qui tourne autour de l'amitié entre deux gamines proches de l'adolescence et qui va être bouleversée. Il y aura une rencontre avec le réalisateur et l'une des actrices du film à l'issue de la séance. En salle 1 du Mégarama à 16h30, projection du film ukrainien Luxembourg, Luxembourg de Antonio Lukic, en lice pour la compétition européenne, qui évoque le périple de 2 jeunes Ukrainiens pour retrouver leur père avant que ce dernier ne meure. Rencontre avec le réalisateur et le producteur après la séance. L'avant-première pour la France de Rachid Ami à 18h30 en salle 2 du Casino d'Arras, qui nous raconte le portrait d'Ismaël en quête de vérité après la mort de son frère lors d'un rituel d'intégration à l'école militaire de Saint-Cyr. Rencontre avec l'équipe du film après la projection. Autre film en compétition européenne à l'honneur en salle 1 du Mégarama à 19h, Men of Deeds du réalisateur roumain Paul Negoescu, un polar décalé où l'ironie et l'humour noir côtoient l'absurde. Rencontre avec l'acteur principal et la productrice à l'issue de la séance. Et puis à 21h15, retour au Casino d'Arras avec la projection de l'avant-première Le Torrent de Anne Leny, une famille prise dans un engrenage sous forme de polar tortueux et psychologique. Rencontre avec la réalisatrice et l'un des acteurs principaux, José Garcia, à l'issue de la projection. C'est la fin de ce 5e épisode du journal du festival. Prochain rendez-vous avec le clap de fin, lundi 7h30, 12h30 et 18h dans votre magazine d'info locale.